Les troubles du comportement quand la maladie d'Alzheimer est là sont fréquents. Olivier Dadoucette va venir nous en parler. Agitation, insomnie, fugue, agressivité. Beaucoup pourraient être évités par une approche adaptée. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une approche adaptée? C'est ce que le docteur Dadoucette va nous expliquer.
Oui, j'aimerais vous apporter une approche plus pratique que, on va dire, de recherche pure, comme celle que vous avez entendue jusqu'à présent, parce que bon nombre d'entre vous vivez probablement la maladie d'Alzheimer au quotidien. C'est peut-être une des raisons qui vous ont motivé à venir ici. Et vous savez que la maladie d'Alzheimer est souvent associée à des difficultés comportementales. J'aimerais donc vous proposer une grille de lecture pour approcher au mieux ces troubles du comportement qui sont parfois terriblement difficiles à vivre et voire même invalidants pour les familles comme pour les patients. Alors, la liste des troubles qui nous troublent, vous voyez, elle est longue. Et je ne vais pas vous faire justement la liste de ces troubles un par un, parce que ça ne serait pas, à mon avis, très didactique et on serait là encore pour un certain temps. Mais il est clair que ces troubles, ils sont présents, à tel point que souvent on associe la maladie d'Alzheimer uniquement à ces difficultés. On a tendance à considérer que dès lors que cette maladie apparaît, elle va inévitablement entraîner de l'agressivité, des fugues, des problèmes d'insomnie, des troubles des conduites alimentaires, j'en passe et des meilleurs. Au point qu'on en oublie que c'est une pathologie qui évolue lentement et qui n'interdit pas au patient et à sa famille de continuer à vivre des moments agréables, voire des moments inoubliables. Alors, pour comprendre pourquoi ces troubles du comportement apparaissent, j'aimerais vous proposer donc une grille de lecture qui permette déjà de décrypter un petit peu le pourquoi de ces troubles. Il est clair que d'autres pathologies n'entraînent pas ces difficultés. Une personne qui a un cancer, une personne qui a une fracture du col du fémur, ne va pas vivre, ne va pas réagir comme quelqu'un avec une maladie d'Alzheimer. Alors, la raison, elle vient de ce que la maladie d'Alzheimer, c'est d'abord une atteinte des facteurs cognitifs, une atteinte des troubles cognitifs, de la cognition, et notamment, d'abord et avant tout, une atteinte des capacités adaptative. Quand on me demande de définir la maladie d'Alzheimer, comme je suis psychiatre, j'ai tendance à dire que c'est une maladie mentale d'origine neurologique. Je serais neurologue, je dirais peut-être le contraire, mais ce qui est tout à fait clair, c'est que cette maladie, elle va atteindre les capacités adaptatives. Et peut-être que la meilleure façon de résumer au fond, les difficultés qui se posent à quelqu'un atteint de cette pathologie, c'est une lente et irréversible atteinte des capacités que nous développons du matin jusqu'au soir à nous adapter. Depuis ce matin jusqu'à maintenant, sans le savoir peut-être, vous avez mobilisé un nombre incroyable de circuits neuronaux pour vous adapter. Depuis le moment où vous avez appuyé sur votre réveil pour sortir du lit jusqu'à maintenant, vous avez sollicité énormément d'air cérébral qui vous ont permis de sortir du lit, de vous habiller, de prendre le petit déjeuner, j'en passe et des meilleurs. Nos malades ont une érosion de ces capacités adaptatives, ce qui fait que ce qui pourrait être en temps normal, un automatisme devient très rapidement une difficulté pour eux. Et dès lors que les capacités adaptatives sont altérées, eh bien, ces difficultés peuvent être génératrices de troubles du comportement. Il est clair donc que lorsque on est confronté à un problème comportemental avec un patient, il faut toujours se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ce trouble est apparu et quelle est la raison de cette difficulté. Pourquoi est-ce qu'au moment de la toilette, mon conjoint a autant de difficultés à accepter que je lui passe un peu d'eau chaude sur le corps ? Eh bien, peut-être que c'est parce qu'il ne comprend plus, il ne sait plus s'adapter à cette situation qui le conduit dans la salle de bain à se laver. Pour lui, ça devient quelque chose d'un petit peu mystérieux, et de ce fait, eh bien, il va être inquiet, il ne va pas comprendre et risque donc de surréagir. Un autre problème qui est à l'origine de ces troubles du comportement chez les patients Alzheimer, c'est ce que nous appelons dans notre jargon l'anosognosie. C'est un terme issu du grec pour dire méconnaissance des troubles. Pour employer au fond un autre terme qui vous parlera tous, nos malades Alzheimer oublient qu'ils oublient. Quelque part dans leur cerveau, il y a un circuit dysfonctionnel qui fait qu'ils ne comprennent plus eh bien, les choses et ils ne réalisent pas que eh bien, leur cerveau ne fonctionnant pas correctement, ils oublient eh bien, les problèmes qui se posent à eux en permanence dans le quotidien. Oublier qu'on oublie peut paraître au fond quelque chose de théorique, mais dans les faits, c'est très compliqué. Pourquoi est-ce que tu me demandes régulièrement de sortir accompagné quand je vais acheter le journal ? Mais mon chéri, c'est parce que tu t'es perdu déjà 3 fois. Mais comment tu dis une chose pareille ? C'est pas vrai, je fais ce chemin régulièrement depuis 20 ans et je le connais par cœur. Mais oui, peut-être, mais la semaine dernière, tu t'es perdu. Voilà, le patient ne réalise pas l'ampleur de ses déficits. Lorsque nous recevons en consultation des patients avec des troubles cognitifs, lorsqu'ils viennent seuls et qu'ils nous disent « Docteur, c'est épouvantable, je suis sûr d'avoir la maladie d'Alzheimer parce que la semaine dernière, j'ai vu une émission sur les troubles de la mémoire avec Michel Simès. » Et depuis, j'ai oublié mon numéro de carte de crédit, donc je pense que j'ai l'Alzheimer. En général, on est moyennement inquiet. On leur dit, peut-être vous devriez vous reposer un peu, vous êtes probablement un peu stressé, voire déprimé. En revanche, lorsque cette même personne vient accompagnée de son conjoint et qu'on lui demande, mais pourquoi êtes-vous là ? Et qu'il vous regarde un peu interloqué en disant « je ne sais pas, je suis venu parce que ma femme a souhaité que je me rende à cette consultation de mémoire », c'est beaucoup plus inquiétant. L'anosognosie. Ensuite, il y a les levées d'inhibition. Levées d'inhibition, c'est un mécanisme, là encore, extrêmement sophistiqué, qui fait que, eh bien, quand on se promène dans la rue et qu'on est interpellé par quelqu'un de désagréable, on se retient pour l'invectiver. Lorsque on est un monsieur et qu'on voit une très jolie femme, on évite de lui adresser la parole, etc., etc. C'est ce qui fait que, eh bien, on se maintient, on se comporte à peu près bien en société. Eh bien, avec la maladie d'Alzheimer, les inhibitions sociales sont progressivement déconstruite. Il y a une levée de ces inhibitions, ce qui fait que nos patients disent ce qu'ils pensent. Parfois, ça peut être cocasse, mais à certains moments, c'est extrêmement compliqué. Lorsque le patient Alzheimer pince régulièrement les fesses de la jolie aide-soignante qui vient lui servir son repas, c'est un peu compliqué. Lorsque le grand-père fait des avances très déplacées à sa petite-fille, c'est aussi très ennuyeux. etc., etc. Ces levées d'inhibition donc, sont à l'origine de beaucoup de difficultés qui sont parfois compliquées à résoudre. Associés aux facteurs cognitifs, nous avons également des facteurs psychiatriques qui sont liés au fond aux conséquences de cette altération des fonctions cognitives. Nos patients ont souvent donc des troubles mentaux, des troubles psychiques associés, qui peuvent entraîner chez eux des difficultés comportementales. Alors d'abord et avant tout, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est un trouble que l'on rencontre fréquemment chez les malades d'Alzheimer, et tout simplement parce que, compte tenu de ce que je vous expliquais tout à l'heure, leur difficulté d'adaptation génère chez eux une forte anxiété. Et quand on est anxieux, eh bien, on peut volontiers être angoissé. J'ai vécu une petite expérience avant-hier où ma fille m'a appelé dimanche soir. Ma fille aime bien jouer au foot. Elle s'est déjà cassée 2 fois la cheville en jouant au foot. Et elle m'appelle hier, avant-hier soir, en me disant « Papa, j'ai joué au foot et j'ai arrêté un ballon et je pense que je me suis blessé le doigt. J'ai très mal et il est un petit peu tordu. » Au lieu de répondre calmement et la rassurer, je me suis énervé. Je lui ai dit « J'en ai vraiment ras-le-bol que tu joues au foot, tu te casses tout le temps, etc. » De quoi s'agit-il ? Et ma fille a eu très peur et a fondu en larmes. Ma réaction était totalement inadaptée. C'était la réaction d'un papa anxieux qui s'inquiétait pour sa fille. Eh bien, nous avons tous vécu ça, j'imagine, à un moment dans notre vie où par anxiété, au lieu d'être calme, d'avoir des réactions adaptées face au danger, on surréagit. Et on devient nerveux, voire agressif. Eh bien, nos malades d'Alzheimer, c'est ça, leur quotidien. Ils sont constamment anxieux parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils sont parfois dans un univers qui leur échappe complètement. Ils ne perçoivent plus les codes. Ils ne comprennent pas dans quel espace et dans quel temps ils se trouvent. Et ça génère chez eux une forte angoisse qui va déclencher de l'agressivité. Nous avons également souvent la dépression, qui est un symptôme que l'on rencontre dans ces pathologies. On estime qu'à peu près la moitié des patients Alzheimer vont à un moment ou à un autre présenter un état dépressif au cours de leur vie. Et quand on est déprimé, on est souvent de mauvaise humeur, voire un peu grognon, pour ne pas dire agressif. Là encore, vous avez tous vécu ça à un moment ou à un autre, mauvaise nouvelle, un moment de tristesse, voire de dépression, et vous devenez irritable, insupportable à votre entourage. Bien, pour nos patients Alzheimer, ce sont des choses qui peuvent arriver fréquemment. Et finalement, le déni, qui est au fond un petit peu le pendant en psychiatrie de la nosognosie, qui est plus une approche neurologique. Et le déni, c'est un mécanisme de défense contre l'angoisse que nous développons tout au long de notre vie. Lorsque nous ne voulons pas affronter un problème, nous le nions. Eh bien, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, c'est également un mécanisme que l'on rencontre fréquemment et qui participe donc à la difficulté que nous avons à faire comprendre à nos patients leurs troubles cognitifs. Maman a eu Alzheimer, ma sœur a l'Alzheimer, et moi je ne veux surtout pas entendre parler du moindre trouble de la mémoire qui puisse m'arriver de près ou de loin. Je mets en place un mécanisme de déni qui va me protéger contre l'angoisse massive d'avoir à mon tour une maladie d'Alzheimer. Nous pouvons également regarder de plus près les facteurs qui sont fréquents dans ces pathologies, qui sont les facteurs somatiques, parce que les malades d'Alzheimer sont parfois des personnes âgées avec des maladies associées, des troubles physiques, somatiques associés. Et lorsqu'ils n'arrivent pas ou n'arrivent plus à exprimer leurs douleurs, qui sont parfois des douleurs banales, un mal au ventre, une constipation opiniâtre, mais ça peut être des douleurs plus graves suite à une fracture, eh bien, n'arrivant plus à verbaliser cette douleur, ils vont l'agir par un comportement. Et on voit ça souvent dans les EHPAD où certains résidents, eh bien, parce qu'ils souffrent d'un trouble physique, vont présenter des troubles du comportement qui peuvent être ou une agitation violente ou un repli complet sur eux-mêmes. Et il est toujours donc important d'aller chercher eh bien, de près l'existence ou non d'un problème somatique associé. Il y a enfin deux autres facteurs qu'il faut analyser toujours lorsqu'on est confronté à un trouble du comportement, qui sont les facteurs relationnels et les facteurs environnementaux. Facteur relationnel, c'est comment le patient ou son entourage interagissent l'un avec l'autre. Nous pouvons, avec un même patient, et on voit ça par exemple là encore au domicile avec du personnel qui peut venir pour eh bien, prendre en charge des patients, mais aussi dans les EHPAD, on voit dans les EHPAD par exemple, eh bien, certaines familles nous dire, bah, c'est curieux, quand c'est tel type de soignant, mon père est très calme au moment des repas, et quand c'est un autre, il refuse complètement de s'alimenter. Même chose pour les toilettes. On a aussi souvent des difficultés au domicile avec des conjoints qui disent « je ne gère absolument pas mon mari ». Et puis la fille qui dit « mais moi, il n'y a aucun problème ». Donc on voit bien que l'interaction entre le patient et sa famille est tout à fait essentielle dans ces troubles du comportement. Je vous donne un petit exemple, mais j'en ai des centaines, d'une dame qui venait me voir en me disant « oui, je n'arrive absolument pas à gérer mon mari, il est très très violent ». Ah bon, mais très bien, mais expliquez-moi un petit peu ce qui se passe. Ben, vous comprenez, il passe son temps à se promener dans l'appartement, à déplacer les objets, etc. Et moi, je suis obligé de passer toujours derrière pour les remettre à leur place, et je le gronde, etc. Il finit par s'énerver et il devient violent. Ben, je lui dis « madame, peut-être que vous pourriez tout simplement retirer les objets un peu fragiles, le laisser eh bien, déplacer à sa guise tous ces objets, puis le soir, quand il est couché, vous les remettez à leur place si c'est important pour vous. » « Ah oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé, docteur. » Ça paraît une évidence, mais cette dame était totalement épuisée, elle avait le nez sur le guidon, elle ne se rendait pas compte de son comportement. On voit aussi des conjoints qui pensent bien faire en corrigeant en éduquant en permanence le conjoint malade. Puisqu'il oublie, je vais lui rappeler qu'il oublie et puis je vais le tester. Alors aujourd'hui, quel jour sommes-nous ? Ben, j'en sais rien, je m'en fous. Mais si, allez, je t'ai déjà dit. Et à un moment donné, le conjoint en a absolument marre et devient un peu agressif. Ce type d'attitude, il est important de les analyser et de se remettre en question. Et globalement, ce que nous disons aux familles, c'est que il faut essayer de dire le moins possible non à un patient Alzheimer et essayer de rentrer dans son univers mental pour s'adapter à lui. Ce n'est pas lui à s'adapter à nous, c'est nous à nous adapter à ce patient. Donc on voit à quel point la relation est importante. Et enfin, les facteurs environnementaux jouent aussi. Nous voyons des patients très agités au domicile et on se pose des questions. Et puis, moi, je vais, de temps en temps, quand je ne comprends pas ce qui se passe, je demande à aller in situ. Je vais au domicile du patient. Je m'installe, je regarde. Et parfois, je découvre que, eh bien, ce monsieur habite dans une résidence extrêmement bruyante, où il y a tout le temps, eh bien, des nuisances sonores. Qu'un autre, eh bien, ne sort pas de chez lui tout simplement parce qu'il habite au quatrième étage sans ascenseur et qu'il a du mal à se déplacer, etc., etc. Donc l'environnement est également important à juger, à jauger. Et notre rôle à nous professionnels, mais les non-professionnels, il faut aussi avoir cette lucidité, c'est de remettre en question l'environnement, se poser la question de savoir est-ce qu'il est ou non adapté à mon patient. Alors, vous voyez, quand je vous propose cette grille de lecture et que vous voyez toutes ces réponses qui sont apportées aux troubles du comportement, on se rend compte que finalement, ces réponses, elles sont toutes plus ou moins le fruit des réflexions que je viens de vous faire. Quand vous êtes confronté à un trouble du comportement, il faut toujours vous demander, mais pourquoi ? Que s'est-il passé ? Ça n'est jamais spontané. Il y a toujours une explication à la clé et c'est à nous, les gens, les soignants, que ce soit les proches ou les professionnels, de nous poser ces questions et d'essayer de trouver, si c'est possible, des solutions. Mais quoi qu'il en soit, quelles que soient les questions que l'on se pose, il est important de bien avoir en tête que le quotidien d'un malade d'Alzheimer, c'est une course d'obstacles difficile, douloureuse, qui s'accompagne de moments pénibles, mais aussi de moments de grâce et qu'il faut savoir repérer. Mais ce qui est important, c'est pour que ces moments de grâce se multiplient, pour que les moments difficiles ne soient pas trop nombreux, il faut essayer eh bien, de faire appel à ces quatre qualités qui me paraissent absolument essentielles pour gérer au mieux le quotidien d'un malade d'Alzheimer. C'est le bon sens. Tout à l'heure, cette dame qui n'arrivait plus à gérer son mari avait perdu le bon sens parce qu'elle était perdue, noyée par la fatigue, l'anxiété. L'empathie. Il faut savoir donc entrer dans l'univers de nos patients. Il faut savoir se mettre à leur place, comprendre un peu ce qu'ils vivent, essayer d'identifier les difficultés à travers justement le prisme de toutes ces capacités adaptatives érodées qui sont le quotidien de ces malades d'Alzheimer. La créativité. Il faut être capable donc de se remettre en question constamment. Il faut savoir, eh bien, analyser et puis trouver des solutions qui sont parfois des solutions tout à fait atypiques. Je vous donne un exemple. Nous avions une fois à domicile un monsieur qui était un ancien militaire de haut rang et qui refusait obstinément les toilettes jusqu'au jour où une aide-soignante a eu l'idée de dire « Général, c'est un ordre ». Et du jour au lendemain, le général a accepté la toilette. Elle a été créative. Elle a eu la bonne idée. Et ça, eh bien, on sait qu'avec un peu de créativité, on peut vraiment eh bien, pousser plein de portes et améliorer énormément le quotidien de nos patients. Et pour finir, l'humour. C'est très important. Tout le monde n'est pas doué d'humour, mais j'aime cette phrase d'Oscar Wilde qui disait « L'humour est la politesse du désespoir ». Il est clair que si on peut essayer de mettre un peu d'humour dans le quotidien, eh bien, ça peut transformer complètement la vie du malade et des soignants. Voilà, merci de votre attention.
Merci Olivier Dadoucet. Restez un instant encore avec moi. Est-ce que ces troubles du comportement sont une étape systématique dans l'avancée de la maladie ?
Disons qu'ils sont très fréquents. C'est pas systématique, mais c'est quand même très très fréquent. Ils sont pas tous la même ampleur, ils vont pas tous se présenter de la même façon, mais on va constamment rencontrer des troubles du comportement. Il va falloir s'adapter à nos patients et à ces difficultés qui vont apparaître progressivement.
Et alors, comment est-ce qu'on apprend à s'améliorer, à mieux accompagner notre proche touché par cette maladie ? Est-ce qu'il faut sortir de chez soi, aller dans des groupes de parole, rencontrer d'autres personnes qui sont confrontées aux mêmes difficultés, échanger ? Est-ce qu'il faut lire des livres ? Est-ce que sur le site de la Fondation, il y a des conseils ? Comment est-ce qu'on peut se faire aider ?
Alors, il ne faut surtout pas s'isoler. Ça, c'est évident. Il faut échanger, partager. Et aujourd'hui, on a pas mal de possibilités à travers les associations. France Alzheimer, par exemple, a des groupes de parole. Mais je suis sûr que dans les hôpitaux de la région, vous avez également des groupes de parole dans les services spécialisés. Il faut également se faire aider personnellement quand on sent qu'on est au bord de l'épuisement, du fameux burn-out du soignant. Aller voir des professionnels pour ça, des psychologues, des psychothérapeutes. Il faut lire des bouquins, il y a des livres qui sont très bien faits. Christelle Bardet va vous parler tout à l'heure de son livre qui fait partie de ces bouquins qu'on peut lire et qui nous donne des tas de conseils qui permettent de justement nous ouvrir un petit peu à autre chose. Il faut lire, il faut regarder effectivement les sites qui parlent de tout ça. Il y a maintenant des blogs d'échange, il y a des films qui expliquent très bien tout ça. Pour résumer, ne restez pas replié sur vous et partagez vos difficultés, partagez vos succès avec des gens qui vivent les choses un petit peu similaires.
faut accepter d'être remis en cause, d'être un petit peu bousculé dans nos habitudes. Et ce qui est formidable dans les témoignages, on va le voir avec celui de Christelle, mais également avec les patients que vous rencontrez, c'est qu'il y a de beaux moments qui sont encore possibles. Vous avez commencé votre introduction en parlant de cela. Il faut vraiment comprendre que c'est une réalité. On n'est pas dans un naufrage. Il y a des moments, voilà, des moments de grâce, des moments d'échange, des moments drôles, des moments joyeux qui sont possibles. C'est un petit peu le message aussi que vous voulez faire passer.
C'est tout à fait le message que je veux faire passer. La maladie, enfin la vie ne s'arrête pas au moment où le diagnostic est posé, mais loin s'en faut. On sait que les patients vont vivre entre 5 et 15 ans. Et toutes les personnes qui vivent au quotidien ou qui ont vécu proche d'un malade d'Alzheimer vous diront qu'il y a eu des moments infernaux, mais il y a aussi des moments de grâce. Et il faut capitaliser là-dessus et essayer de faire en sorte que ces moments se multiplient.
Merci beaucoup.